Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, j'ai sous les yeux un livre de format 21-29-5 et qui s'intitule « Cuisine et tradition à Périgord noir ». Et c'est un livre qui a été écrit par Josiane Geneteau. Et il y a sur la couverture de très belles photos, dont de magnifiques champignons débollés, bien évidemment. Alors, il y a bien sûr un petit avertissement qu'elle m'a envoyé et que je vais vous donner la lecture. Tout de suite, en 2024, j'ai décidé de mettre au propre les recettes de toute ma vie. J'ai toujours cuisiné pour ma famille et pour mon mari, resté mince, mais fin gourmet. J'ai vécu dans la ferme familiale de 1952, date de ma naissance, à 1970, date de mon départ pour l'Université de Bordeaux, où je commençais des études de géographie. Ma vie adulte de professeur a été marquée par la succession de mutations professionnelles après Bordeaux, Le Mans, puis la Martinique pendant 10 ans, et enfin la région parisienne. Je ne suis jamais revenu en Périgord noir, où j'ai mon cœur. Mon mari Charentais a préféré l'île de Ré pour sa retraite. Alors, dans la page 1 du livre, cette période des années 50-60 correspond à Périgord noir, à une période de transition, voire de rupture, entre la vie traditionnelle, comme au 19e siècle, ou presque, et l'entrée dans la vie moderne, en même temps que se situait l'agriculture commerciale. Alors, donc la page 1 de ce livre, ben je vais vous la donner, tout simplement. Alors, ça s'intitule « Comme chacun d'entre nous, je suis une personne inscrite dans l'humanité, comme chacun d'entre vous, je suis une personne unique. Unique, je le suis par mes gènes, certes, unique parce que j'ai vécu, c'est-à-dire une petite parcelle de celui-ci où je ne puis parler au nom d'autrui. C'est pour cette raison que j'ai entrepris dans ce recueil d'évoquer mes souvenirs qui seront peut-être partagés. En parler de la cuisine et des traditions à Périgord noir est sans doute une ambition trop globale, car chaque maison, chaque famille est différente et chaque personnalité apporte sa marque propre. En conséquence, j'ai pris le parti d'évoquer ce que je connais le mieux, mes souvenirs d'enfance. Dans une ferme précise à cette époque, en Périgord noir, l'activité agricole occupait plus de 50% des actifs. Les fermes étaient petites, moins de 15 hectares cultivables. L'agriculture était à dominante vivrière. Chaque ferme vivait presque en autarcie, peu intégrée dans les circuits monétaires. Il s'agissait avant tout de subvenir à ses besoins premiers, manger pour vivre, et la vie quotidienne tournait autour de la subsistance. En ville aussi d'ailleurs. En même temps, cette période des années 50-60 correspond en Périgord noir à une tradition, voire une rupture entre la vie traditionnelle, continuité du 19e siècle marquée par la polyculture et l'entrée dans la vie moderne avec la mécanisation, la spécialisation et l'agriculture commerciale. Cette mutation et cette ouverture sur le monde ont eu des conséquences notables sur les styles de vie. À une période de 1950, Périgord noir était en retard par rapport à certaines régions de France. Vivant là à cette époque, j'ai été sensible de savoir vivre, savoir être au raffinement de cette vie d'autrefois, tradition culinaire, intelligence des besoins essentiels de l'homme, sans parler des valeurs qui restent universelles et qui perdurent, comme le sens de l'hospitalité. C'est vrai que l'hospitalité périgourdine est bien connue. Alors certes, à cette époque, nous n'aurions pas sur l'or, comme on dit dans les milieux populaires, mais nous ne manquions de rien. Ben, exigeant par rapport à cette société de consommation d'essence, nous profitions pleinement de notre cadre de vie exceptionnel et de la nature environnante. Alors, bien sûr, il y a les souvenirs culturels, souvenirs d'une immersion totale dans un environnement, une nature généreuse, merveilleuse et silencieuse, où l'empreinte des autochtones était à la fois forte et discrète. Alors, il y a, sur la page suivante, il y a quand même un avertissement avec de très belles photos de la maison familiale à Quadalix, c'est-à-dire à Marcaille. Alors, cet avertissement est intéressant. Alors, cet ouvrage se conçoit surtout comme un reportage sur le Périgord noir d'autrefois, les années 50-60 principalement. Ces recettes proviennent de l'art de la cuisine de ma grand-mère, Mémé Marthe, cuisinière attitrée de la ferme de la Croix d'Alix. Sa cuisine était quotidiennement inspirée et savoureuse. Cette cuisine, par les traditions de la ferme de saison, se voulait simple. La liste des ingrédients n'était ni longue ni compliquée. Pour ma part, je suis resté dans ce registre. Si une recette est trop sophistiquée, avec des ingrédients multiples, je la laisse tomber. Les photos de plats cuisinés seront rares dans cet ouvrage. Les recettes évoquées sont ici classiques, très connues, dont on trouve aisément des illustrations sur Internet. À la fin de ce recueil, les membres de ma famille seront évoqués, leur longévité, leur caractère, leur talent, leur prudence ont permis une grande stabilité à notre ferme familiale. Qui sera rendu hommage à mon frère Jean-Claude, à ma belle-sœur Christine, pour avoir repris les rênes. Mon frère m'a dit un jour, tu as toujours ta chambre de jeune fille ici. Merci. Mais bon, j'avoue qu'elle n'est pas souvent revenue en Périgord. Alors pour ma part, j'ai vécu de 1952 à 1970 à la Croix d'Alix, en faisant mes études en internat au lycée La Boétie, puis près de Cordillère-Sarlat, ouvert pour la rentrée de 1969. De 1970 à 1977, j'ai vécu à Bordeaux, où j'ai fait mes études supérieures, où j'ai rencontré mon mari Michel. Puis mariés, nous sommes restés au Mans enseignant pendant 2 ans, ne pouvant revenir dans ma Dordogne natale, faute de points d'ancienneté nécessaires. Nous sommes partis à Martinique pendant 10 ans. Puis ne pouvant toujours pas revenir dans ma Dordogne natale, Michel a changé de profession et nous voilà installés en Île-de-France. La retraite ayant sonné, nous partageons notre temps entre l'Île-de-France et l'île de Ré, mon charentais de Marie, voulant pêcher sur la digue d'Ars en Ré en regardant le soleil se lever. Mais paraît-il, il y a moins de poissons à l'île de Ré. Ben, il y a toujours d'ennui. Alors, bien sûr, il y a de très belles photos, comme je disais, de la ferme familiale. Puis la ferme de la Croix d'Alix autrefois. Alors bien sûr, il y avait toute une organisation, hein, chacun avait son travail à faire. En ville, bon, c'est un peu différent, évidemment, nous avions moins de place, mais chacun avait également son travail. Alors, la ferme de la Croix d'Alix, autrefois, son organisation, la ferme de la Croix d'Alix dans les années 50-60, était une ferme moyenne, située au dehors des routes principales. La ferme, comme beaucoup d'autres, était isolée, sans voisin immédiat, son plat comme on le voit sur la photo aérienne, formant un triangle d'un seul côté de la route qui mène au moulin de Bénivet. Alors si vous connaissez un peu le coin, vous pourrez vous repérer facilement. Au bord de Marcaille, à cette époque, la culture du tabac était rendue nécessaire. La construction dans les années 50 d'un séchoir à tabac de l'autre côté de la route qui est désormais partagée la ferme en deux. Alors maintenant, bon, il n'y a plus de culture du tabac, mais les séchoirs existent toujours. Bon, ils servent d'entrepôt bien souvent, mais ça existe toujours. Et c'était des constructions qui étaient faites en bois. Alors plusieurs étapes de la construction de la ferme sont toujours visibles. À l'ouest se dresse ce qu'on appelle la maison vieille. Ça doit être la première implantation, comme elle ne comportait qu'une pièce dotée d'une grande cheminée avec son cantou et un évier en pierre. Au-dessous, une cave et au-dessus, un grenier. La maison vieille ne servait plus qu'à faire les conserves, les confitures et les gaufres. C'est bon, les gaufres. Dans un coin de la pièce trônait un vieux lit doté d'un matelas rempli de feuilles d'épi de maïs, ce qui me surprenait et m'interrogeait sur la rusticité du temps. Alors, mon cousin Daniel adorait dormir là. C'est vrai, moi, j'ai dormi aussi sur des... dans des lits où il y avait des feuilles d'épi de maïs, mais... On dort bien, ça raconte un peu, mais on dort quand même très bien. Puis avait été construite une belle maison de pierre au toit de Loz que j'ai connue durant les 8 premières années de ma vie, comme nous vivions à plusieurs générations sous le même toit, sur les habitudes du village de l'époque. Cette maison a été surélevée et du même coup a perdu tout son charme premier. Bon, mais la nécessité, bien sûr, oblige. Alors, la grange a été construite par mes grands-parents dans les années 1930. Le bâtiment en pierre désaffecté aujourd'hui est une belle construction massive et solide. On va arrêter un peu cette lecture. Donc il y a une introduction et puis il y a quand même quelques recettes. Il y a une recette, ce sont les écrevisses à l'américaine. Dans les années 50, même encore 60, les écrevisses étaient présentes en abondance dans les petits ruisseaux des Bennes. Alors les Bennes sont les ruisseaux qui coulent sur Marcaille. Alors pas loin de chez nous, la pêche était autorisée pendant le mois d'août En conséquence, nous avions un plat d'écrevisse à l'américaine pour les fêtes du village qui avait lieu comme chaque année, le premier dimanche d'août. Ce plat rare était un plat de fête. Alors, je pense que tout le monde n'attendait pas le mois d'août pour y pêcher des écrevisses. Mais il fallait faire quand même attention à la marée chaussée. Alors, il y a une recette, évidemment, alors une recette pour 4 personnes. 1 kg d'écrevisses, 3 échalotes, 3 gousses d'ail, 20 centilitres de vin blanc sec, alors type Alsace, 20 centilitres d'eau, 1 demi-cube de concentré de tomates, une demi-boîte de tomates pelées, du cognac, c'est à 8 centilitres, bouquet garni, thym, laurier, persil, farine, sel, poivre, huile, et 3 piments de Cayenne séchés entiers. Alors, ben moi j'aime souvent manger des écrevisses à l'américaine, je l'appelle, c'était forcément au mois d'août, mais je ne m'appelle pas des piments qui rentraient dans la composition du plat. Alors, et bien sûr, alors, on nous dit préparer les écrevisses, les éviscérer, les faire revenir dans un faitout avec de l'huile, elles doivent rougir, verser le cognac, flamber, ajouter les échalotes émincées, laisser cuire 3-4 minutes, puis introduire l'ail haché qui ne doit pas brûler. Attention, hein. Alors là, c'est bien sûr la femme de la maison qui surveille tout ça. Alors ajouter le vin blanc, le concentré de tomates, diluer avec un peu d'eau, les tomates en boîte coupée, un petit morceau, introduire le bouquet garni, assaisonner, saler, poivrer, introduire les piments. Alors comme je disais tout à l'heure, bon, les piments, je ne me souviens pas qui rentraient dans la composition. Alors cuire à feu moyen, pas trop longuement, 15 à 20 minutes, ce plat se réchauffe très bien. Alors, il y avait bien sûr, il y a un petit rajout à la fin des années 60, mais Mémé Marthe, moderne et créatrice, introduisait dans la sauce pour la corser de la harissa. Comment avait-elle découvert cela? Sans doute son fils, Jean le Parisien. Les écrevisses autrefois ont disparu. Pourquoi? Pesticides, engrais, nous dit-on. Alors nous n'avions pas d'écrevisses, mais Mémé cuisinait des moules à l'américaine. Selon les mêmes indications, aujourd'hui je sers des langoustines à l'américaine. Et il y a, comment je peux dire, un très beau, très belle photo de crustacés à la langoustine selon la recette de Mémé Marthe. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de choses. Il y a la brandade de morue. Alors, il y a la friture de gardèche. Alors ça, quand on allait à la pêche, on ramenait beaucoup de gardèche, des bras de scou. Alors, un de mes grands souvenirs d'enfance, c'est la pêche au gardèche. Petit poisson des eaux claires. Dans la petite benne avec mon frère et ma sœur, nous rapportions parfois plus de 100. Préparer des gardèches, les fariner, les faire frire à l'huile dans une poêle, dans la sienne, les citronner. Si l'on veut, les gardèches peuvent aussi se préparer en omelette. Tout se mange, la tête et les arêtes. C'est vrai que là, c'est quand même des petits poissons. Alors, bien sûr, il y a d'autres recettes. Il y a la mix, on en reparlera la semaine prochaine. Et puis, il y a la mix arladaise. Alors, la mix arladaise, ben, je vais quand même vous donner la recette. La mic est une sorte de gâteau salé cuit dans le bouillon qui sert de pain en quelque sorte pour accompagner les viandes bouillies. C'est une spécialité du sarladé que l'on retrouve aussi dans le Lot et dans le Limousin. Mais c'est la façon de les faire n'est pas la même. Alors il existe deux catégories de mic, la mic levée et la mic au pain. Cette mic sert d'accompagnement aux viandes bouillies décrites précédemment. Le bouillon de ces préparations est indispensable à la cuisson de ce gâteau salé. Mémé Marthe faisait toujours la mique avec un paquet de levure Alsace. Sa confection était rapide. Je revois les gestes de ma grand-mère, mais je n'ai aucune proportion, sauf le rituel. Ça prend ce que l'on y met. Voilà, alors bien sûr, une mique avec du petit salé, c'est pas mauvais, mais c'est bien sûr des plats que l'on mange plutôt en hiver. Voilà, quant à moi, je vais donner rendez-vous la semaine prochaine. Eh bien pour quelques recettes de cuisine traditionnelle, de tradition Périgord noire de Josie-Anne Généteau. Voilà, bonne semaine et à bientôt.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.